Dimanche passé, j'ai parlé d'un proverbe. Proverbe 4, 23. Quelqu'un se souvient? Proverbe 4, 23. Garde ton cœur par-dessus tout, car de là viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Nous avons vu le mot garder. J'ai essayé de faire en une minute, juste le récapitulatif pour ceux qui n'ont pas été sur place. Le mot garder, c'est possible parce que Dieu nous garde. Lorsque nous gardons les yeux sur lui et lorsque nous gardons sa parole. Apocalypse chapitre 3, l'avant-dernière église, parce que tu as gardé ma parole. Et nous avons vu aussi dans le mot garder, dans 2 Timothée chapitre 1, verset je sais plus lequel, c'est garde le bon dépôt. Le mot dépôt, ça nous parlait d'un double mot. Ça nous parlait un mot qui est gardé proche de toi, de ton cœur, pour un usage futur. Donc ça, c'est le mot garder. Nous avons vu donc mercredi passé, c'est le cœur. Le cœur, c'est le reflet. Par exemple, quand on voit avec les gens et qu'ils vont te dire, waouh, tu as un beau cœur, tu as une belle âme, mais on ne voit pas ça. En fait, c'est juste un reflet. C'est-à-dire que la manière que je me vois dans le miroir, dans ce reflet-là, détermine ma vie. Par exemple, si mon cœur il est attristé, ben, mon comportement, il est triste. Parce que c'est mon attitude, c'est un reflet. Et nous avons vu mercredi que pour garder son cœur, le mot cœur, ce qui est le plus important, c'est exactement se regarder la manière que Jésus nous voit. Par exemple, nous naturellement, on peut se voir comme des pécheurs, on peut se voir comme des nuls, peu importe le mot que vous voulez mettre là-dedans. Mais si je prends le regard que Christ a sur moi, je suis un fils, je suis justifié, je suis pur, je suis parfait. Il faut se dire, hein, il faut oser de se dire aujourd'hui, je suis parfait. Oui, parce que je regarde dans le miroir, je regarde mon cœur à travers le regard de Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, 5:17, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la Bible qui le dit. C'est-à-dire que si je me regarde avec le regard de Christ, je me regarde la manière que lui, il me voit. Donc, c'est ça le mot, garde ton cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais parler donc de la suite de ce proverbe, les sources de la vie. Et vous allez voir que tout est parfaitement lié. Salomon, quand il a écrit ce proverbe, il a vraiment été inspiré par le Seigneur. Pour faire la liaison entre le mot « garde ton cœur », le mot « garder », c'est « garde ta vision sur Christ ». Ça veut dire que parce que tu gardes ta vision sur Christ, parce que tu gardes sur la parole, Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, ben ça en déduit, ça amène comme conséquence, si on peut dire comme ça, des sources de vie. C'est fabuleux. Seigneur, parce que je garde ta parole, mon cœur est transformé, mon cœur est nourri, et cela produit des sources de vie. C'est une liaison parfaite. Si je veux être, mais je vais aller un peu plus dans les détails, pour vous donner un peu les définitions en hébreu. Et vous allez voir, c'est juste merveilleux. Le mot source, alors bonne chose pour le prononcer, c'est totsawao, quelque chose comme ça, en hébreu. Ça veut dire s'étendre, aboutir, arriver, se prolonger. Et le mot source et vie vont de pair. Le mot vie, il est plus facile, c'est Kai, ça veut dire renaissance, renouvellement pour une prochaine étape suivante. Et j'aime ça. Je vais dire pourquoi. Dieu ne veut pas que nous soyons comme l'eau qui stagne. Vous savez, des fois on se dit, voilà, j'ai une piscine, je suis bien dans ma piscine. Je me baigne, elle est bleue, elle est propre, etc. Mais si elle stagne, j'ai pas de piscine. Mais par déduction, elle devient verte. Et lorsqu'elle est verte, moi je vais pas me baigner, hein. Non merci. Peut-être pour certains, ils vont se dire, oh, bah, c'est que de l'eau. Mais on sait très bien que les piscines vertes, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut que l'eau, elle circule. Alors il y a des systèmes de filtration, de pompes, d'évacuation, de remplissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est continuellement, c'est quelque chose qui tourne, qui se renouvelle, quelque chose de nouveau. Et là, si je vous prends un exemple, donc les deux mondes parallèles, c'est vraiment arriver plus loin. Arriver, ou étape suivante, c'est le mot source. Plus loin, c'est le mot vie. Renouvellement, quelque chose de nouveau. Et Dieu ne veut pas qu'on stagne. On peut se dire, voilà, je suis bien dans cette église. J'ai, dans certaines églises, ça arrive, j'ai le nom sur mon siège, que je sois là ou pas là, c'est pas grave, c'est mon chaise, ma chaise. Et on peut se dire, voilà, je suis chrétien, je vis ma vie, je fais ce que je fais dans la semaine, mais attention, dimanche le matin, je change d'étiquette, je suis chrétien le dimanche matin. Vous pensez vraiment que c'est le cœur de Dieu? Je pense qu'on sera, ça s'appelle plus des hypocrites ou des acteurs ou peu importe le mot qu'on met là-dedans. Ça n'a pas de sens. Dieu veut que nous ayons plus loin. Rappelez-vous les deux mots source. Aller plus loin. Et c'est fabuleux. Je vais donner un exemple dans la parole. En Rois chapitre 17 verset 12. Je vais vous mettre dans le contexte. Ça nous parle de Élie et une femme qui est veuve. Élie, il y a une famine parce qu'il y a une sécheresse. Il va dans un torrent. Là, Dieu le nourrit jusqu'à que le torrent est sec. Et là, il y a Dieu qui vient lui dire, donc, en 1 Rois chapitre 17 verset 9, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Le mot demeurer, c'est vraiment habite là-bas. Tu ne bouges pas jusqu'à ce que je te le dise. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est Dieu qui lui dit, à Élie. Donc Élie, il va, il voit cette femme. Verset 12 et 16, je vais vous le lire parce que c'est vraiment bon. Donc cette femme, il lui dit à Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine. Dans un pont, il y a un peu d'huile. Dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons, après quoi, nous mourrons. Ouais, super le plan. C'est fabuleux. C'est encourageant. Et Élie, qui savait, qui lui a dit, c'est elle qui va te nourrir, parce que Élie ne pouvait pas sonder le cœur de cette femme. Mais Dieu, oui. 1 Samuel chapitre 16. Et il lui dit, ne crains pas, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. La femme, dans son regard naturel, dans ce qu'elle vit, elle dit, bah, super comme espoir, j'ai peut-être grignoté ce qui me reste, puis on n'a plus rien, on attend la mort. Et là, tout d'un coup, donc, il y a Élie qui dit, ok, mais regardez ce qu'il dit. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point d'huile et de l'huile dans la cruche ne diminuera point jusqu'à ce que l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Et regardez ce qu'elle fait, c'est fabuleux. Elle a là, elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Donc, pour remettre un peu dans le contexte de ce qu'on parle de la source de la vie, aller plus loin. Cette femme-là, elle a reçu une parole, elle a reçu une promesse de Dieu. Elle garde cette promesse dans son cœur. Et regarde cette promesse avec le regard de Dieu sur sa propre vie. Elle a obéi et elle est allée plus loin. Naturellement, tu aurais dit, je ne vais pas y aller parce que j'ai rien. Mais elle est allée plus loin. Une source de vie. Quelque chose de nouveau. C'est la même définition. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à aller au-delà de ce que nous voyons maintenant. Et c'est fabuleux parce que lorsque nous allons au-delà de ce que nous voyons maintenant, nous allons rencontrer quelque chose de nouveau, comme la définition vie. Nous allons rencontrer une source de vie. Parce que le passage nous dit quoi? Elle a eu pendant longtemps à manger. Elle, sa famille et Élie. Et c'est drôle parce que normalement, dans les premiers versets, il disait hey, « moi et mon fils ». Ça veut dire que la famille est très petite. Mais là, quand on parle le mot famille, donc c'est elle, la famille et Élie. Parce que notre Dieu, quand il donne une source de vie, il nous donne en abondance. Il n'est pas un Dieu radin. Donc, lorsque je garde mon cœur, lorsque je reçois cette parole de Dieu, parce que tout est lié, et cette parole, cette promesse, je la regarde avec le regard de Christ sur ma situation, cela me pousse à aller plus loin pour rencontrer quelque chose de nouveau. Vous pensez que la vie de cette femme n'a pas changé? Moi, je pense que oui. Donc, garde ton cœur pour un usage futur. Garde le regard de Christ et cela va te pousser à aller plus loin pour rencontrer quelque chose de nouveau, la vie. Nous avons un autre exemple. Là, on bascule dans le Nouveau Testament. C'est lorsque Jésus appelle les disciples. Et là, les disciples, on sait que c'était des pêcheurs. Pas juste des pêcheurs qui font le mal, mais des pêcheurs qui pêchaient le poisson. Donc, ils ont de l'expérience. Il y avait Pierre, il y avait son frère, André, il y avait Jean et son frère. Donc, ils ont de l'expérience. Et là, ils pêchent toute la nuit, rien. Pour des gens qui ont de l'expérience, ça peut arriver, mais rien du tout. Et Jésus, donc, il vient, on voit ça dans Luc chapitre 5. Et Pierre, donc Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je le ferai encore. » C'est fabuleux. « Seigneur, mon expérience naturelle me dit qu'il n'y a pas d'espoir. On ne va certainement pas prendre des poissons maintenant. On a bossé comme des malades toute la nuit. Mais sur ta parole, je le ferai encore. » Et nous, dans combien de situations, on peut dire, Seigneur, dans cette situation, c'est tellement chaotique, dans cette relation brisée, dans ce travail, dans les finances, dans toutes ces choses-là, Seigneur, il n'y a plus d'espoir. Mais sur ta parole, je veux y croire. Mais sur ta parole, je le ferai encore. Seigneur, je n'arrive pas à pardonner à cette personne parce qu'elle m'a tellement brisé, elle me porte en haine, peu importe. Mais sur ta parole, parce que tu me le dis, Seigneur, je le ferai encore. C'est fabuleux. La femme, la veuve de Sarepta, d'une manière ou d'une autre, c'est aussi, c'est sur ta parole, Seigneur, je ferai ce que tu me demandes. Oh, j'avais pas envie, ça c'est clair et net. Mais sur ta parole, je le ferai. Parce que lorsque je regarde avec ton regard, je peux aller plus loin. Je peux aller à une autre étape. Est-ce que Pierre et les disciples, ils ont péché? Oui. Parce que sur sa parole, Seigneur, sur ta parole. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Sa parole, la parole de Dieu, fait en nous des sources de vie. Ça veut dire que si je garde Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme gardera pur ses sentiers en se dirigeant d'après ta parole? Seigneur, nous sommes dans un monde que il prône ce qui prône, tout ce qui te déshonore, tout ce qui est genre et tout ce qui va avec, tout ce qui est magouille, trompé, ceci ou cela. Mais sur ta parole, Seigneur, je veux continuer à garder ce que tu m'as dit. Un peu comme il me disait dans Romains chapitre 13, Seigneur, sur ta parole, tout le monde me dit que je dois désobéir aux autorités, magouiller, etc., ce qu'on veut mettre là-dedans. Mais sur ta parole, je décide d'obéir. Parce que tu me le demandes. Peut-être que je n'ai pas envie de payer des impôts. Mais sur ta parole, Seigneur, parce que tu me le dis dans ta parole, je le ferai. Parce que tu l'as dit. C'est fabuleux, n'est-ce pas? La Bible est remplie d'exemples. Pardonnez-moi si je prends pas tous les exemples, parce que si je prends tous les exemples, en fait, on fait un cours, voire un semestre. Mais la pensée ce matin, tu gardes prêt pour un usage futur. Tu regardes la situation avec le regard de Christ, et cela me pousse à aller au-delà du naturel. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi des missionnaires vont dans certains pays? Parfois ils meurent. J'avais entendu une fois une histoire. C'était trois couples de jeunes mariés. Ils vont en mission. Et au départ, c'était les trois maris, donc les trois hommes qui sont partis. L'avion, il scratch. Ils meurent. Ils n'arrivent même pas dans le champ missionnaire. Vous imaginez les trois femmes? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? On avait à cœur. Et comme tu dis, le Seigneur dit à David, parce que tu as à cœur de construire un temple, c'est une bonne chose. Mais là, Seigneur, on a eu à cœur d'aller dans tel pays tout servir. Et boum, il meurt. Pourtant, ces trois femmes sont allées sur le champ missionnaire. Il y a eu un réveil extraordinaire. Seigneur, je suis blessé par ces situations. Mais sur ta parole, c'était notre désir. On va aller dans le champ missionnaire. Et il y a eu un réveil extraordinaire. Et il y en a des missionnaires. Si vous regardez encore aujourd'hui, avec les chrétiens qui sont persécutés dans le monde, il y en a des chrétiens de nos églises qui sont autant en Ukraine qu'en Russie et ils restent. Parce que Seigneur, sur ta parole, il y a d'autres âmes qui vont être touchées. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Le Seigneur nous pousse à aller au-delà de notre confort, au-delà de notre naturel, lorsque nous gardons ce principe, c'est garde ton cœur, car de là viennent les sources de la vie. Mais c'est logique. Si je ne garde pas la parole de Dieu dans mon cœur, comment je peux vivre selon sa parole? Si je ne prends pas la parole de Dieu comme une lampe, toujours psaume 119, verset 105, comment je peux me diriger? Comment je peux faire la différence dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui? Il est impossible. Mais Seigneur, sur ta parole, je le ferai. C'est fabuleux, n'est-ce pas? Et on peut le mettre dans tous les domaines de notre vie. Nous avons un exemple qui est un peu différent des deux autres. Je pense que le Seigneur a beaucoup travaillé le cœur. Je parle de Joseph. Pour faire court l'histoire de Joseph, c'était le 11e fils de Jacob, le préféré, parce qu'il venait donc de la famille de Rachel. Et pas, donc c'était le demi-frère des 10 autres. Ils le mettent en haine. Ils le mettent dans une fosse. Ils le vendent aux Amalécites. Il va en Égypte. Il se fait vendre comme esclave. Il va dans la maison de Potiphar. Là, la femme de Potiphar le trompe en disant, il a voulu coucher avec moi, etc., etc. Et il finit par la case prison, où il reste très longtemps, entre 15 et 20 ans. C'est loin. C'est long. Et on peut se dire, mais Seigneur, j'ai tellement servi. J'ai servi mon père pour aller voir comment va mon frère. J'ai servi cet homme, Potiphar. Tu as béni sa maison. Seigneur, pourquoi j'ai été trahi? J'étais dans cette prison. Là aussi, je me suis fait tromper par le panetier et puis par celui qui donnait la coupe de vin au pharaon. J'ai oublié le nom, Chantrion, chancelier? Les chansons, ça c'est autre chose, les chansons. Là aussi, Seigneur, je me suis fait trahir. Et tout d'un coup, ok, le pharaon a un rêve, tu me fais sortir de la prison, je deviens qui je deviens. Et j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur? Moi, imaginez, je suis en prison depuis 15 ans, 20 ans, quand tout le monde m'a oublié, que tout d'un coup, il y a pharaon qui a un rêve. Je me dis, attends, je n'ai assez bavé pour ma vie aujourd'hui. Mais Seigneur, sur ta parole, avec toi Seigneur, je vais aller plus loin. Et c'est ce qu'il a fait. Il a servi Pharaon. Il y a ses frères qui arrivent. Il y a ce qui se passe, toute l'histoire avec ses frères. Il aurait pu parfaitement se venger. Mais Seigneur, sur ta parole, je vais pardonner. Sur ta parole, je vais aller plus loin avec toi. Et ce qui est surprenant, c'est que à la fin du chapitre, lorsque Jacob y meurt, ses frères ils disent là, il faut qu'on le magouille, il faut qu'on le trempe, parce que là, il va se venger sur nous. Et ça se voit que malgré que Joseph a pris soin de eux et de leur famille, ils n'ont pas reconnu leur cœur. Ils n'ont pas reconnu le cœur de Joseph. À tel point qu'au chapitre 42, verset 9, lorsque les frères sont venus la première fois, Joseph se souvient des songes qu'il avait eus à leur sujet. J'aime ça. Et au verset 5, au chapitre 50, verset 19 à 21, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu. Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. C'est fabuleux. Vous imaginez toutes les déceptions qu'il a eues. Et il a dit, d'une manière ou d'une autre, Seigneur, je veux te croire. Seigneur, j'ai gardé ce que j'ai vécu avec toi dans mon cœur. J'ai eu des rêves, comme on a vu au chapitre 42. J'ai eu des rêves qui me concernent. Habakkuk nous dit, si la promesse est tarde, attends-la, car elle va s'accomplir. Elle s'accomplira. Seigneur, je suis découragé aujourd'hui, mais sur ta parole, je veux prendre courage. Rappelez-vous David, quand ces hommes voulaient le lapider parce qu'ils étaient remplis d'amertume, lorsque les Amalécites ont récupéré ses femmes, les enfants. Seigneur, je suis découragé. Il y a la déception, mais sur ta parole, je prends courage en toi. Et j'aime cette expression, David reprit courage dans le Seigneur. David a gardé dans son cœur ce qu'il a vécu avec le Seigneur. Et parce qu'il a gardé pour un usage futur, il prit courage dans le Seigneur. Seigneur, sur ta parole, je vais aller plus loin. Et là, dans cette histoire avec Joseph, on voit que les frères qui étaient morts de peur ne connaissaient pas le cœur de Joseph. Et nous, c'est exactement pareil. Il se peut que même en tant que chrétien, depuis longue date, on ne connaisse pas le cœur de notre Père. Il y a parfois, et c'est triste à dire, des chrétiens, des chrétiennes, qui ont leur vie chrétienne, et le moindre échec dans leur vie, oh là là, mon Dieu va me punir. C'est ce qu'on appelle du légalisme, c'est ce qu'on appelle des... Je connais des choses sur Dieu, mais sans l'expérimenter. Alors que notre Dieu, notre Sauveur, il a été au-delà. Quand il était dans le jardin de Gethsémané, Seigneur, et loin de moi cette coupe. Mais d'une manière ou d'une autre, mais sur ta parole, j'irai. Sur ta parole, je vais aller payer pour les êtres humains. Ésaïe chapitre 53, c'est à cause de ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par sa mort, nous avons la vie, etc., etc. Quel bon exemple. Et nous, aujourd'hui, on peut se contenter de vivre notre vie confortable dans le pays qui est la Suisse. Mais Seigneur, sur ta parole, je veux aller plus loin. Seigneur, je garde ta parole. Je regarde la manière que tu me vois parce que je veux aller plus loin avec toi. Je ne suis pas satisfait dans ma vie chrétienne aujourd'hui. Je veux, Seigneur, te connaître plus. Lorsque Jean-Baptiste disait, Seigneur, je veux diminuer, moi, je me connais déjà depuis trop longtemps, pour que tu puisses croître. Seigneur, sur ta parole, je veux aller plus loin. C'est fabuleux, hein? Les sources de la vie, c'est ça. Les sources de la vie sont liées à la parole de Dieu. Si vous voulez vraiment avoir une source de vie en vous, ouvrez la parole de Dieu. Ouvrez la parole de Dieu. Des fois, j'avais vu ça, une BD d'un Suisse qui dessine ça pour annoncer l'évangile. Et t'as un bonhomme dans la BD. Il dit, Seigneur, parle-moi. Et le Seigneur, il montre le doigt, comme ça, il y a un doigt, avec un bouquin où ça marque la Bible. Il regarde. Seigneur, parle-moi. C'est dingue, hein? Mais la parole de Dieu, c'est précieux. La parole de Dieu, si on la garde dans notre cœur, nous apprend à regarder avec le regard de Christ pour nous pousser à aller plus loin. C'est simple la parole de Dieu, hein? C'est simple. Et nous, on a le choix aujourd'hui. Soit je reste religieux, froid, je connais des choses de Dieu. Soit je dis, Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Quand on va à l'évangélisation, par exemple, samedi prochain, pour ceux qui ne sont pas convaincus de venir à Sion, je ne fais pas la propagande, même si Sion, c'est une belle ville. L'église, nous avons comme vision d'implanter une église sur Sion, parce qu'il y a peu d'églises, premièrement. Deuxièmement, on peut avoir la peur dans notre cœur. Seigneur, mais je vais parler de quoi? Il y a des missionnaires, hommes et femmes, lorsqu'ils témoignent, ça paraît tellement gigantesque. Et moi, je suis dans mon petit monde. Ça peut nous freiner. Parce que nous avons le mauvais regard sur notre vie. Vous pensez que quelqu'un qui se convertit aujourd'hui, c'est pas un miracle? C'est fabuleux. Renoncer à tout ce que le monde te dit depuis des années, que Dieu n'existe pas et ceci ou cela, vous pensez que c'est pas un miracle? Vous pensez pas qu'à travers votre vie, notre vie, on peut pas influencer ceux qui sont autour de nous? Si. On peut trouver des excuses pour aller à l'église, pour ouvrir la parole, prière, ce qu'on vous met là-dedans. Mais Seigneur, sur ta parole, je veux aller plus loin. Je veux pas me contenter. Je veux être une piscine bleue. Une piscine où l'eau elle circule. Une piscine qui me rafraîchit. Une piscine qui ne me rend pas malade. Seigneur, sur ta parole, je veux aller plus loin. C'est fabuleux, hein? Mais malheureusement, ça fait penser à cet homme qu'il a oublié. David et ses serviteurs gardaient le troupeau d'un homme qui s'appelle Nabal. Cet homme-là, il était riche. Et lorsque Nabal il commençait à tondre les moutons, à faire la fête, David envoyait des serviteurs à lui pour lui dire, est-ce que tu veux bien me donner un peu ce que tu as préparé? Et n'oblige pas, c'est une demande. Et cet homme Nabal, qui a oublié que si son troupeau il a grandi, si ses troupeaux il est en sécurité, c'est que David était comme lui et ses hommes, comme une muraille. J'aime ça, comme une muraille. Il a oublié, il n'a pas gardé cela à cœur. Regardez ce qu'il dit dans 1 Samuel chapitre 25, verset 15. Et pourtant ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage. Rien ne nous a été enlevé. tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, etc., etc. C'est un homme, Nabal, qu'il a oublié de garder cela à cœur. Et résultat de course, il n'a pas été plus loin. Il dit, mais c'est qui David? Qui sont ces hommes-là? C'est un peu un hasard qui m'ont protégé. Je ne les ai pas obligés. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Diego disait tout à l'heure, la reconnaissance. Et après, donc David, pour faire court de l'histoire, il dit, je vais aller le tuer, lui et sa famille. Et il y a sa femme, Abigail, qui sort. Il dit, je ne savais pas ce que s'est passé, mais accepte, s'il te plaît, ça. Dieu a utilisé, même dans la maison d'un fou, parce que Nabal, ça veut dire fou, il a utilisé une femme sage en disant, ne fais pas ça, David. Oui, t'as envie, mais j'aime ce qu'Abigail dit, écoute la parole de ta servante. Et David, il dit quoi? Sur ta parole, je ne le ferai pas. Dieu a utilisé cette femme sage pour épargner sa famille. Cette femme sage était mariée à un fou. Et c'est Dieu qui est intervenu puisque cet homme, il fait une crise cardiaque, on va dire comme ça. Mais David a dit, j'obéirai à ta voix. J'ai entendu ta parole. C'est fabuleux, hein? Un homme n'a pas gardé cela à cœur et il a retrouvé la mort. Et nous, si on garde la parole, la vision, nous allons rencontrer des sources de vie. Fabuleux, n'est-ce pas? On peut aller loin dans les exemples, mais je ne veux pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Seigneur, sur ta parole, je veux aller plus loin. Et lorsque nous allons plus loin avec le Seigneur, tu dis, ah, là c'est bon, je suis en sécurité. Ah, tu me demandes de faire un pas, mais Seigneur, je ne vois rien. C'est pas grave, fais-moi confiance. Sur ta parole, je fais encore un pas. Seigneur, je ne vois pas. Je suis déstabilisé. Je suis comme un rocher. Il y a tout autour, c'est vide en bas. Fais-moi confiance sur ta parole. Parce que j'ai déjà expérimenté le passé. J'ai vu, Seigneur, dans le passé, que tu as été fidèle. Et parce que je garde ça pour un usage futur, tu seras fidèle dans la suite. Lorsque la mort se présente devant nous, on peut avoir peur, ce qui est normal. Mais Seigneur, sur ta parole, je ferai le pas pour venir dans ta direction. C'est fabuleux. Cette femme-là de Sarepta, il n'y avait que la mort devant elle. Seigneur, sur ta parole, je vais rencontrer la vie. Et elle a eu de la farine pendant très longtemps. Elle a nourri elle, sa famille et Élie. Amen. On va rester, voilà. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur par-dessus tout, car de là viennent les sources de la vie. Je garde pour un usage futur. Je regarde avec tes yeux, parce qu'à ce moment-là, ça me pousse à aller plus loin dans ma vie chrétienne. Et je vais être renouvelé. D'ailleurs, là, je vais finir avec cette pensée. Le mot vie, ça nous parle renaissance aussi. Ça nous parle de renouveau, renaissance, prochaine étape, suivant. C'est comme si, vous imaginez, David qui expérimentait avec Goliath, il tue Goliath, c'est comme si David dit, au suivant, quelqu'un d'autre, suivant. J'ai vécu la vie avec le Seigneur, au suivant, quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre veut me menacer? Mon Dieu est derrière moi. Seigneur, sur ta parole, je vais aller au combat. Et pour nous, Seigneur, sur ta parole, je veux persévérer. Sur ta parole, je te prierai. J'ouvrirai la parole. J'irai à Sion. Je prendrai des cours bibliques. Sur ta parole, Seigneur, je vais m'intéresser à quelqu'un de nouveau dans l'église. Sur ta parole, Seigneur, je vais appeler quelqu'un que je n'ai pas appelé depuis un certain temps. Pour te dire, le Seigneur t'aime. Seigneur, sur ta parole, j'annonce l'évangile. Sur ta parole, j'aurai pas honte de qui je suis. parce que je garde pour un usage futur. Je regarde avec tes yeux parce que cela produit la vie. On va prier. Seigneur, notre Dieu, on veut te dire merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour cette portion. Sur ta parole, on veut aller plus loin avec toi. On veut pas être satisfait de ce que nous avons expérimenté. On veut pas tout simplement se dire, ouais, le Seigneur a été fidèle. On veut dire que le Seigneur est fidèle. On te prie, Seigneur, de nous conduire tout au long de cette semaine. Et que s'il y a un obstacle, une difficulté, une opposition ou autre, c'est se rappeler que sur ta parole, je veux aller plus loin. Parce que c'est toi encore qui le fais. Nous te bénissons, Père de gloire, et nous te louons pour qui tu es. Protège aussi tous ceux qui vont revenir du Sud, entre aujourd'hui et demain, de leur voyage. Donne-leur un bon temps dans la voiture. Et Seigneur, on se réjouit de les revoir la semaine prochaine. Et pour nous aujourd'hui, sur ta parole, on veut aller plus loin. Merci Seigneur pour qui tu es. Amen.